monde.
Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la dernière partie de cette série consacrée à Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est l'empereur Ali Selassie invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général.
Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Après avoir permis à la Guinée, son pays, d'accéder dès 1959 à l'ONU, après avoir, en tant que secrétaire général de l'OUA, symbolisé pendant près d'une décennie la diplomatie africaine, Diallo Telli, qui a choisi à la fin de son second mandat de rentrer dans son pays, malgré les mises en garde de ses proches et de quelques chefs d'État, voit se refermer sur lui l'étau dont lui parlaient toutes ces personnes. Il a été arrêté et enfermé sans même avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Justice dans la sinistre prison du camp Boiro. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée Radio Nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté.
Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Nous ajoutons que vendredi prochain, 27 août, dans les mosquées de chaque PRL, la Fatia sera récitée collectivement pour maudire les racistes et les conduire à l'échec retentissant, pour maudire ceux qui les soutiennent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans le monde, afin qu'ils aient toujours honte. Il faut que partout où celui-ci remue la tête ou la queue, partout où il présente le nez ou les oreilles, l'arme de la révolution soit là, prête à lui couper la tête, les bras, les jambes, la queue, en un mot, à le démantibuler complètement.
Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyr de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles?
On ne l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettre.
Tierno Diallo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père?
On n'a jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Les certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passaient. Remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boiro, il y a des veuves qui ont dit « Mais non, la semaine dernière, on m'a demandé d'envoyer des chemises », alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas.
Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo Telli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres.
« Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. » Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi. Car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde, en vantant tes mérites créés de toutes pièces. La presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée. En pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple, nous te rappelons que tu es encore utile à ta famille, prêt à la révolution.
Diallo Télé, qui trouve désormais son réconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. Et c'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement entre nous, soyons sérieux, tu sais que j'ignore tout ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54 au camp Boireau, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boireau et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. « Barrage, barrage, barrage !» Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être désormais hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Barry, Sis Avané Souleymane, Diallo Télé et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D, signifiant « diète noire », est tracée sur leurs portes, ce qui signifie qu'en fait, ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, en Guinée, à Conakry, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Sis Avané, qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Télé, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer l'air, et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Télé décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Porto Salva Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans un fameux camp Boireau à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite?
On l'a mis dans une couverture et sale, et là, une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer. Dans un des, comment dirais-je...
Des charniers.
Des charniers, exactement, vous me passez le mot.
Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Télé y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Tierno Diallo Télé, vous avez pu vérifier cette information?
Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. l'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977, en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo, et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo, c'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pris sur le trou. Et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Pour besoin d'archives, nous l'avons enregistré sur film.
Plusieurs mois après, la famille de Diallo Télé n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela, Portos, vous qui avez finalement été libéré?
On nous prévient à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon.
Madame Kadudiatou Diallo Télé, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979?
Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours, peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar.
Tierno.
Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort.
C'est vous donc, Tierno Diallo Télé, qui informez votre mère de la mort de votre père?
Dès que j'ai fui la Guinée en 79, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 77 au Moiro. Il était un des témoins oculaires, en même temps que le ministre Portos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins.
Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallo Télé. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention. Mars 1984, moins de 7 ans après la mort de Diallo Télé, la radio nationale guinéenne annonce la mort de Sékou Touré de suite d'un accident cardiaque. Quelques instants après cette annonce, l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre camp Boiro et la libération des détenus encore vivants. Il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens. Le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance aux colons. Madame Kadidiatou Diallo Télé, après cela, avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré?
Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo, dans la banlieue de Conakry. Nous n'avons jamais vu de tombe. Nous n'avons jamais eu une information sûre. On n'est même pas sûr qu'il est à Nongo. Nous avons demandé un certificat de décès. Jusqu'à ce jour, encore, on le demande et on ne l'a pas obtenu.
Madame Kadidiatou Diallo Télé, je sais que vous vivez au Canada, mais êtes-vous souvent retournée en Guinée?
Vous savez, j'ai la nationalité canadienne. J'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays. J'avais créé la fondation Diallo Télé et j'étais en train de mener cette fondation. Je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques. J'étais vraiment menacé et les Canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers, j'avais trouvé le charnier de Nongo, les deux charniers à Kindia. Je commençais à être gênante et les Canadiens ont eu des informations qui les ont amenés à me demander de partir. J'ai donc quitté. Ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry. On me dit que les choses évoluent.
Ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches. Aujourd'hui, ils ont créé une association des enfants des disparus du camp Boiro qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents, mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés. Le ministère de la Réconciliation et de la Solidarité a même été récemment créé sur place par le régime Conté. Tierno Diallo-Télé fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du camp Boiro, qui a d'ailleurs été reçue par Mme Henriette Conté, la première dame.
Nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait panser les plaies, mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus. On cessait de les accuser de traîtrise, alors aucun d'entre eux n'a été traître, aucun n'a été jugé. Ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine, sans aucun procès, sans aucun secours judiciaire. Mais ça, c'est de l'assassinat, c'est pas des jugements. Donc, nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame, Mme Henriette Conté, qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à sa résidence. Elle a reçu les familles des victimes, les enfants, les survivants, et les veuves, et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamaya, comme j'appelle ça ici, c'est-à-dire de danse éhontée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre, et qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans éplorées, les veuves du camp Boiro. Ce qui nous a vraiment réconfortés. Donc je n'ai pas été étonné vraiment, que, probablement sur son insistance. Donc nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la réconciliation et de la solidarité. Et je crois que c'est enfin le bon bout. Maintenant, oseront-ils aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont tellement embrassé et étreint Sékou Touré qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus. Sékou Touré est un assassin comme Adolf Hitler, comme Staline, comme beaucoup d'autres.
Celui qui veut tuer son adversaire se demande si ce n'est pas la meilleure façon de l'éterniser. C'est sur cette réflexion de Friedrich Nietzsche que j'ai découvert dans la précieuse biographie de Diallo-Télé que vous avez écrit, M. André Levin, et que je conseille fortement à nos auditeurs, que se termine notre série consacrée à ce personnage dont l'histoire passionne encore de nombreux Africains. À lire également le livre de Alpha Abdoulaye Diallo, plus connu sous le pseudo de Portos. Le titre, 10 ans dans les geôles de Sékou Touré ou la vérité du ministre, publié chez L'Harmattan. Merci Monsieur Edam pour votre éclairage. Merci également à Stanislas Ndaïchimier et Soro Solo de RFI pour leur précieux concours dans la réalisation de cette série. Delphine Michaud, Lucie Bouclou et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique.
Moja fadi fa fadi boira fruke basta kine kine banda ma ke basta nyam dobra tun fin zamba mori manyinde komore manyinde de komore manyi more kene jokala manyinde fin zambura Mori mani de, komore mani de, de komore mani, mori kene jokala mani de kumbura. Aye, aye,
Vous souhaitez réécouter Archives d'Afrique? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.